vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 mai 1920, le président de la République tombe du train. Un homme créé pour séduire, gravi d'une marche légère, le destin souriant, qui de succès en succès le conduit au sommet de ses rêves. Et à peine l'a-t-il atteint qu'il s'effondre, écrit Adrien Danzette à propos de Paul Deschanel dans son Histoire des présidents de la République. Membre de l'Académie française, président de la Chambre des députés durant 12 ans, Paul Deschanel, qui n'a jamais accepté de fonction ministérielle malgré les très nombreuses sollicitations, est élu président de la République le 17 janvier 1920. Il triomphe de Georges Clemenceau, le père la victoire. Il souhaite rendre la magistrature suprême plus active, mais il ne reste au pouvoir que 7 mois. En effet, il démissionne à la suite de graves ennuis de santé et décède le 28 avril 1922, après avoir été élu sénateur de l'Eure-et-Loire un an plus tôt. Dans la nuit du 23 au 24 mai 1920, Paul Deschanel voyage à bord du train présidentiel. Il se rend à Montbrison pour inaugurer le monument à la mémoire du médecin, sénateur et pionnier de l'aviation Émile Raymond, tué au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale. Le lundi de Pentecôte, 24 mai, Louis Le Sueur, sous-préfet de Montargis, est réveillé à 5 heures par un bleu du service télégraphique PLM numéro 2164, ainsi libellé. Un homme, se disant Monsieur Deschanel, est tombé du train présidentiel au kilomètre 110. Autorités locales et docteurs sont prévenus. Louis Le Sueur gagne les lieux de l'incident en voiture. Il y rencontre André Radeau, le garde-barrière, qui, faisant sa tournée peu après le passage du convoi présidentiel, s'est trouvé tout à coup en face d'une ombre qui marchait péniblement entre les voies. Elle lui dit alors « Je suis le président de la République et je suis tombé du train ». André Radeau se rend vite compte que l'homme a le visage ensanglanté. Il ne croit pas à l'identité annoncée et pense aussitôt avoir affaire à un ivrogne. Il l'a donc un peu rabroué avant de le mener à la maisonnette du passage à niveau le plus proche. Là, le blessé est accueilli par Gustave Dariot, poseur, et son épouse, qui est garde-barrière. Il est environ minuit et demi. Les blessures à la face, au coude et au genou sont lavées et soignées, puis les époux Dariot couchent dans leur lit le blessé tout grelottant. Fortuné Carré, gendarme de la brigade de Corbeil, prévenu par Gustave Dariot, se rend avec son collègue Victor Mollard auprès du blessé pour recueillir ses premières déclarations. Les gendarmes reconnaissent le président de la République et avisent téléphoniquement le capitaine de la gendarmerie de Montargis. Louis Le Sueur, arrivé au chevet de Paul Deschanel, le conduit à la sous-préfecture distante d'une douzaine de kilomètres. Là, le président prend un petit déjeuner léger et reçoit une piqûre antitétanique. À 11h du matin, un bulletin de santé est publié. État aussi satisfaisant que possible, érosion superficielle de la face et de la jambe gauche. Accompagné de son épouse et du président du conseil, Alexandre Milleran, qui l'a rejoint à Montargis en fin de matinée, Paul Deschanel rentre à l'Élysée vers 19h. Les caricaturistes et les journalistes sont sans pitié pour celui dont l'un des biographes écrit « Physiquement, il possède au maximum la prestance, la tenue si nécessaire à cette magistrature, il est dommage que les facultés mentales de Paul Deschanel n'aient pas été à la hauteur d'un aussi beau physique. » Nous nous retrouvons dans un instant pour la chronique littéraire « Un jour, trois livres » qui a été préparé par Emmanuel et que j'aurai le plaisir de vous présenter. mais nous allons d'ici là marquer une pause musicale. C'est Idir qui nous accompagne en chanson tout au long de cette émission. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, Tizi Ouzou. C'est une reprise du fameux San Francisco. Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres préparés par Emmanuel. Nous commençons par le roman historique de James Meek, publié aux éditions Métayer, vers Calais en temps ordinaire. Nous voilà plongés en plein Moyen-Âge, en 1348. C'est le temps de la grande peste noire. Une gente dame, lectrice du roman de la Rose, fuit un odieux mariage arrangé. Un procureur écossais part pour Avignon et un jeune laboureur en quête de liberté intègre une compagnie d'archers qui a participé à la bataille de Crécy. Tous se retrouvent sur la route de Calais. Venant vers eux depuis l'autre rive de la Manche, la mort noire, la peste qui va tuer la moitié de la population de l'Europe du Nord. Pendant ce voyage assombri par le passé violent des archers et les avertissements des prêtres sur la fin du monde prochaine, les voyageurs se confrontent à la nature de leurs amours et de leurs désirs, et cela au milieu des fumées des bûchers censés éloigner la pestilence, mais aussi des bagarres et des coutumes oubliées. Vers Calais en temps ordinaire de James Meek, c'est aux éditions Métayer. Ernetti et le voyage interdit de Roland Portiche aux éditions Albin Michel. Nous voici plongés dans un fabuleux voyage vertigineux. Un message menaçant le pape est capté par les radio-astronomes. Inquiet, Jean-Paul II confie au père Ernetti, créateur d'une machine révolutionnaire qui permet de voir dans le passé, une mission presque impossible. Revenir au commencement de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Mais en plongeant dans la spirale du temps, Pellegrino Ernetti se confronte à des énigmes inquiétantes. Si le Big Bang n'était qu'une porte ouverte sur d'autres mondes, si à force de chercher Dieu, il finissait par le trouver là où jamais il ne l'aurait imaginé, et si le pape était menacé par la pire des conjurations, avec l'aide du célèbre physicien Stephen Hawking et accompagné par sa complice israélienne Natacha, agent du Mossad, le père Ernetti entreprend un fabuleux voyage qui va le mener de la préhistoire à la naissance de la Terre et de l'univers. Ernetti et le voyage interdit de Roland Portiche s'est publié aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique par la Renaissance avec Francesco Fioretti qui publie aux éditions Hervé Chopin Raphaël, la vérité perdue. Voici une enquête, celle portant sur le décès de Raphaël à 37 ans. À Rome, en 1519, après des années d'efforts et de compromis, après le départ de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, Raphaël est enfin le maître incontesté de la capitale. Mais très vite, Rome se révèle être un nid de vipères et lorsque le pape Léon X nomme le peintre de génie responsable des fouilles archéologiques romaines, les choses empirent. Rome cache de nombreux trésors appartenant à la papauté, mais beaucoup se trouvent sur les terres des plus grandes familles de la ville qui ne sont pas prêtes à y renoncer. Raphaël pense trouver une solution en dessinant une carte de la Rome impériale, une carte qui résistera au temps et aux intérêts individuels, mais quelques mois plus tard, Raphaël, le banquier Chigi et le cardinal Babiena, ses grands amis, meurent tous les trois dans des circonstances étranges. La rumeur parle de vie désordonnée et de mauvais amour, mais pour Pierre Laretin, poète et ami de Raphaël, et pour Margherita, muse et maîtresse du défunt peintre, ces trois morts sont l'œuvre de la même main meurtrière, et pour le découvrir, ils vont devoir plonger au cœur des accords secrets et des alliances mystérieuses les plus inattendues. Raphaël, la vérité perdue, c'est signé Francesco Fioretti et c'est publié aux éditions Hervé Chopin. Ainsi s'achève cette émission Historama. Nous allons nous séparer en chanson avec toujours Idir. Nous écoutons Andayela et je remercie Lucas qui a réalisé cette émission.
ظلمي ويستيقن في السراء واسم ديوغ الفخار ما فيش فيض اي ترجف اي ترقيف اسم النيل واسم الطبرات مسلامة واسمي روح تتوالي تظلمنا هالضرطة صغف ثروان ما تشفي غاية النيل هاي تروح غاية شنيل ميقعب ندال في النار يا الراس تيليمي وين عزيز سنفاني برقز ورن الليل لتوي راس ليل مريل لي ثروة متسولي هم كراس الدنيل بابث وندي من فيه ما تشد شاض ما تهضر ضيومي للمحنة مذيل سوسميل تزويج دور تبرد وزر في حضر توفير يرفض صدي مطينا عايز هاوريس يا روان عايز نسي وذا في واني بيزا فاكس كي قد اقريس يا جاسة قد اسير نويسينا اسمي غهوان الربحة يا حنين يا دي حنين اني لا تطرمينا بوز شاشد يا بوز شاشد يتبرني بحياتي سين يا حاسدين وين عزيزين Thank you.
Thank you.